C'est pas pop-up sur France Inter. Bonjour Antoine Decaune.
J'étais dans ma piscine.
Bonjour Laetitia, vous allez bien?
Vous flottez bien?
Oui, vous savez. Vous venez me rejoindre?
Je fonce,
je vole. Jusqu'à 17h, à tout de suite. Pop-popienne, pop-popien, et tous les autres aussi, bonjour. Le problème des parallèles, c'est qu'elles ne se croisent jamais, ce qui est rassurant pour les usagers de la SNCF, alors que nous, à Pop-pop-pop, et à la radio en général, on fait exactement le contraire. Oui, le croisement, c'est la vie, sauf si vous brûlez un feu rouge. Et si nous devions rester parallèles, notre métier n'aurait plus aucun sens. Certes, je joue avec les mots, mon péché mignon, puisque nous ne sommes pas des figures géométriques, enfin pas que, et que les parallèles dont nous allons parler aujourd'hui évoquent bien sûr des dimensions parallèles, dont la physique quantique nous permet d'imaginer la réalité. Moi, l'idée d'une dimension parallèle, ça fait ma joie. Et surtout, ça me console parce que je me dis que dans un monde parallèle, ça va forcément mieux que dans notre monde à nous, qui est complètement d'équerre. Peut-être qu'ils ont trouvé le moyen d'arrêter de se mettre sur la gueule du matin au soir, dans un monde parallèle, de faire preuve d'un peu plus de tolérance, d'indulgence, va savoir. C'est pour ça qu'est grande la tentation d'aller y faire un tour. Et comme c'est hélas encore impossible, à moins qu'on nous ait caché quelque chose, heureusement que la fiction s'empare du thème pour nous faire rêver. Parallèle, c'est le nom de la série mise à l'honneur aujourd'hui dans Pop Pop Pop, et nous vous conseillons vivement d'aller la croiser. Cook Dong Tran, son créateur, et Nedra Ayadi, l'une de ses interprètes, sont les invités de Pop Pop Pop. Et Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Bonjour Nedra.
Bonjour Antoine.
Et bonjour Cook.
Bonjour Antoine.
Alors je vous appelais Cook pendant toute l'émission parce que...
C'est
Cook,
parfait.
Dong Tran, j'y arriverai jamais, je vais me planter, vous allez m'en vouloir, ça va être terrible, ça va mal se passer. Bienvenue à tous les deux dans Pop Pop Pop. Alors vous venez tous les deux nous parler de la série parallèle sur Disney, comme je le disais à l'instant, et nous allons y revenir en long, en large et en travers avec Charline Roux, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, avec Charline Roux qui nous rejoindra dans quelques minutes. Mais pour commencer, avez-vous l'un et l'autre déjà fait l'expérience de dimension parallèle? Et sinon, comment les imaginez-vous?
Alors, l'expérience, non, mais la question de savoir si les univers parallèles, c'est excitant parce qu'on se pose la question, est-ce que j'ai fait les bons choix? Croisées de vie, on se dit, est-ce qu'on ouvre la porte de droite ou celle de gauche? Je ne sais pas si on prend tant de décisions essentielle et si importante que ça, mais quand on en prend, parfois, ça a des conséquences. Et j'aime bien me poser cette question. Et si j'avais fait autrement? Donc c'est ça pour moi, les univers parallèles. C'est qu'il y a un Cook qui fait totalement autre chose dans un autre univers, qui est peut-être parfaitement heureux ou parfaitement malheureux, j'en sais rien, mais l'idée est séduisante.
Et vous, Nedra?
Pareil, je ne pense pas avoir fait l'expérience des vies parallèles, mais c'est vrai qu'on se pose toujours... On se dit, si j'avais pris cette décision, si j'avais fait ça, qu'est-ce que je ferais? Puis même, ça questionne. Et du coup, je trouve que la série, se dire qu'on peut se projeter on peut être autre dans une autre dimension, finalement, le présent, je trouve qu'il prend une autre saveur, quoi.
Ouais. Mais c'est très séduisant, en fait, cette idée d'un monde parallèle. Enfin, oui, c'est ça, d'un monde qui serait parallèle au nôtre, où la vie serait inverse. Enfin, moi, je trouve ça intellectuellement extrêmement séduisant.
Oui, c'est ça, et puis de résister quelque part à une sorte de fatalité, finalement.
Ouais.
Mais après, on résiste toujours un peu, je trouve, au quotidien, de se dire, non, en fait, il n'y a pas de fatalité. J'ai toujours la possibilité de... Bon, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais on aimerait.
Vous savez qu'en radio, les dimensions parallèles sont à portée de curseur, parce que vous bougez le curseur d'une radio d'un millimètre et vous vous retrouvez avec Andrew Manoff, par exemple, sur une station concurrente à la domaine de l'écho à chaque fois. Bon, avant de parler de la série, nous allons essayer de vous connaître l'un et l'autre un peu mieux, mais avant cela, et pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose une petite perle de Jacques Dutronc de 1966, intitulée justement « On nous cache tout, on nous dit rien ».
C'est rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? We'll sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Tatatoutou, tatatoutou. On écoutait Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Je crois que c'était un cru 66 en compagnie de nos deux invités, Nedra Ayadi et Cook Dangtran, respectivement interprètes et créateurs de la série Parallèle sur Disney+, dont nous parlerons dans quelques minutes avec Charline Roux. Mais pour l'heure, essayons de mieux connaître le créateur et sa créature. Alors, je vais commencer par me corriger moi-même, parce que Nedra, vous êtes aussi créatrice, et notamment réalisatrice, puisque vous avez réalisé le thriller Ma fille, avec notamment Roche Dizem en 2018, et que vous en écrivez un nouveau en ce moment même. Les
oui.
informations sont justes?
Oui, vos mm-hmm. informations sont justes.
Bah, dites-moi deux mots alors.
De quoi?
De ce projet.
De ce projet, écoutez...
La créatrice.
Mais moi, je suis novice hein, encore. Mmh. Le premier parlait plus du. Enfin voilà, ça évoquait. J'ai un peu des petites obsessions, j'ai l'impression, autour de la transmission ouais. et du rapport parental. Le premier, c'est vraiment, c'était père-fille, et là, on va dire que c'est mère-fille. Plutôt. Et c'est vraiment encore, enfin voilà, au sein de la famille. Je crois que j'ai besoin de faire toute la famille avant de m'émanciper de ça.
Bah, vous êtes passé par la case relation mère-fils avec, ouais. Avec cette série parallèle.
Exactement.
Très bien.
Exactement.
Tout ça est tout à fait cohérent.
Voilà.
Alors sans vouloir établir lourdement de parallèle entre vous, Cook et Nedra, mais vous avez au moins un point commun, c'est que vous n'étiez pas parti pour devenir saltimbanque. Vous, Nedra, êtes juriste de formation.
Oui.
Oui. Et vous, Cook, avez passé de nombreuses années dans le monde merveilleux, dites-vous, de l'entreprise. L'un et l'autre, il y a un moment où vous vous êtes dit, ah, il me faut vraiment autre chose dans la vie.
Moi, je me le suis toujours dit. Mm-hmm. Alors, en fait, j'ai fait mes études de droit. J'ai un master de droit public.
Ouais.
Mais j'ai toujours fait des études de théâtre à côté. J'ai fait le conservatoire de région, j'ai fait des cours et voilà, j'ai adoré faire des études. Vraiment, j'ai adoré. En plus, j'étais en option liberté publique et droits de l'homme, donc c'est vraiment. Mais je savais que, enfin, il y avait quelque chose de plus mmh. fort, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, ça s'est joué à quand on parlait tout à l'heure de choix. J'ai réussi une audition de théâtre et un entretien à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse ouais. en 24 heures. Et oh. Il a fallu faire le choix. Mmh. Et donc, je suis allée sur les planches.
Bah voilà, on revient au monde parallèle.
Voilà.
Que serait-il passé si
ouais. mmh.
Et vous, mon cher Cook, la machine à café le matin, ça vous suffisait plus?
Alors non, moi, effectivement, j'ai fait une école de commerce, un MBA, et j'ai travaillé 10 ans en entreprise. Mmh. Et j'ai fait une incroyable crise de milieu de vie. Mmh. Parce que je n'arrivais plus à trouver tout à fait du sens. Et donc, je me suis posé pendant plusieurs mois et j'ai cherché ce que je pouvais faire comme autre métier.
Vous parlez de milieu de vie, vous vous situez un peu plus précisément parce que j'ai un jeune homme en face de moi.
Ouh, je peux vous rendre du compliment. Donc, j'ai 52 ans.
Ah oui. Ah, vous ne les faites pas.
Ouais,
ah,
c'est dingue.
Ah ouais, c'est dingue.
Donc, j'avais 35 ans j'avais besoin de trouver un sens. Et donc, j'ai attendu chaque jour que l'inspiration vienne me frapper. Et un jour, je me suis dit, tiens, moi qui regarde des séries, je pourrais peut-être devenir scénariste. Donc c'est comme ça que ça, ça a commencé.
Ah ben voilà, un message d'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui s'emmerdent profondément dans leur travail au quotidien. On vous a aussi vu, Nedra, il y a quelques semaines dans le rôle d'une candidate à la mairie, hein, sèchement mise de côté par Isabelle Huppert, dans Les Promesses, le film de Thomas Kruithof. C'est un film qui parle de politique de façon assez citoyenne et qui refuse le tout pourri un peu sommaire, contemporain. Vous avez accroché avec ce point de vue-là ?
Oui. Mmh. Je trouve que ça parle de la politique au sens noble du terme. Pourquoi on s'engage ? Et oui, j'avais envie de défendre ça. Et en fait, c'est important même aujourd'hui.
C'est le moment ou jamais.
Ouais. C'est le moment ou jamais. Et je trouve ça beau, cet engagement. J'étais très contente qu'il me propose ça. Bon après, malheureusement, mon personnage aussi fait ses débuts en politique et apprend ce qu'est. Vraiment aussi ce monde-là, mais c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Je trouve que c'est important de remettre du sens à ce qu'on fait.
Tout à fait. Et vous avez frappé à la bonne porte. Car dans cette émission, nous essayons tous les jours, avec modestie, de participer à l'effort de guerre. Mais ce très beau film qu'on avait ardemment soutenu à l'époque de Thomas Kruithof avec Reda Kateb, que nous avions reçu à l'époque, vous voyez-le aussi, il n'est pas trop tard, ça s'appelle Les Promesses. Quant à vous, Cook, le mélange des genres, c'est pour vous un véritable objectif artistique. Vous dites d'ailleurs que c'est le but de votre écriture. Je rappelle d'ailleurs que vous avez participé à des succès comme 10%, celui dont vous avez notamment écrit le pilote ou le bureau des légendes, mais que vous avez aussi créé ceci.
Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance.
Quelle chose ?
Marianne.
Ça, c'est une série d'horreur diffusée sur Netflix qui, même si elle n'a connu qu'une saison, avait tapé dans l'œil de Mr. Stephen King en personne. Difficile de faire mieux, on est d'accord, comme parrainage.
C'était un hommage à Stephen King et il nous l'a signifié. Il a reçu notre message.
Et alors ?
C'était évidemment incroyable. C'était évidemment incroyable. Mais je voudrais juste sortir 3 secondes du truc pour dire que Nedra et moi, nous sommes des enfants de l'immigration. Et je peux pas vous dire à quel point c'est important et à quel point nous sommes fiers en fait de pouvoir apporter notre petite brique à l'édifice de la fiction pop française, de la pop culture française. Ouais. Voilà, Nedra et Adi, Cook dans le tronc, quoi. Enfin, et au Scrabble, ça donne des trucs un peu improbables, mais...
C'est 30-39, je crois. J'ai fait rapidement, là.
On casse tout. Ouais. Non, mais du coup, voilà, je voulais juste vous dire ça parce que c'est vraiment un motif de fierté, quoi.
Eh bien, écoutez, je vous en félicite et vous êtes les bienvenus, comme vous l'aurez compris, dans cet univers. Nedra, dans un tout autre registre, vous serez bientôt dans la mini-série Houssekine sur Disney également, qui tourne autour de la mort de Malik Houssekine, survenue en 1986 suite à un tabassage en règle.
Je suis là aujourd'hui pour vous demander, au nom de mon frère Malik, de rester calme.
Justice pour Malik !
Malik est mort ! Malik est mort ! Malik est mort !
Tiens, on parlait d'immigration.
On parlait de sens.
Ouais, on est en plein dedans.
Voilà. Je suis très fière d'être dans ce projet. Mmh. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de faire ce métier. Pour parler de ces gens-là, de ceux qu'on n'écoute pas. Et je trouve qu'en plus, notre métier est nécessaire. On n'a pas de leçons à donner ou quoi, mais ça donne la parole à ceux qui n'ont pas été entendus. Mmh. Et en l'occurrence, l'affaire Malik Houssekine, la famille a été instrumentalisée. Elle n'a pas pu faire son deuil. Et c'est... avant tout une famille qui a été amputée d'un membre, une mère qui a perdu son fils et des frères et sœurs qui ont perdu leur petit frère. Et oui, faire partie de ce projet, c'est important.
Bon, on en reparlera en temps voulu, mais on comprend avec vous deux autour de cette table qu'il y a du grain à moudre aujourd'hui dans cette émission. Alors Nedra, Cook, les disparitions d'ados, les drames historiques, Disney, ce n'est plus la petite sirène depuis longtemps. Mais malgré tout, vous l'auriez cru l'un et l'autre si on vous avait dit, lorsque vous étiez gamin, que vous travailleriez un jour pour ce bon vieux Walt. Cook
Alors, effectivement, j'ai 52 ans, mais l'enfant intérieur qui est en moi et qui est encore très, très, très vivace est fou de joie. Je ne peux pas vous dire à quel point voir le petit logo avec le petit château ou bien le petit ting avec le... à chaque fois, je m'émerveille.
Ouais. Moi, franchement, quand on m'a dit que c'est moi qui ferais le rôle de Sophia, mais vraiment, je n'y croyais pas. Je me suis dit, je ne suis pas du tout, je peux pas entrer dans l'imaginaire Disney. Et pareil, enfant, j'étais spectatrice, j'en ai vu tellement, et aujourd'hui, je suis actrice, et je me dis, ben voilà, en fait, on fait partie du paysage Disney. Et en fait, pour de vrai, c'est normal, mais enfin, c'est normal. Je veux dire, il faut, c'est à l'image de notre société. Mais c'est vrai que, ben, on se dit qu'il y a, voilà, que ça avance.
Bien. Eh bien, tendez grandes vos oreilles de Mickey, parce que je vais vous repasser un petit peu de musique en attendant que nous venions à parler de Parallèles en compagnie
Rêve Bleu, ou...
de Charline Renaud. Oui, vous voulez la chanter? Vous faites un petit capella? Avant ça, je vous propose d'écouter ensemble Curious de Franz Ferdinand, dont le sympathique chanteur Alex Caprano, c'était notre invité il n'y a pas très longtemps. Curious.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Oui, car c'est de la Picardie, une autre forme de la quatrième dimension que nous arrive Charline Roux.
Je ne souhaite pas de venir sur mes terres, vous allez être très mal accueilli, Antoine Decaune.
Charline.
Bonjour.
Bonjour, Parallèle, c'est une série où des ados se perdent dans des dimensions qui se croisent, c'est
alors, ça? Parallèle et croisé, il y a un truc un peu contradictoire. Roman, Samuel, Victor et Bilal font le mur et se retrouvent dans un bunker qui leur sert de QG pour fêter l'anniversaire de ce dernier. Mais voilà, ce qui à première vue semble être une banale coupure d'électricité est en fait un événement difficilement explicable qui propulse les quatre amis dans des dimensions parallèles, dans d'autres temporalités. Alors comment vont-ils faire pour revenir dans leur monde d'avant? Telle est la question. Et quand on vient d'une autre dimension, comme c'est le cas de Bilal, après cet événement, doit-on en parler à sa maman? Alors oui, puisque c'est vous, Nedra, astrophysicienne de profession, avant toute chose et avant le tournage, quel était votre niveau en physique quantique?
Nul.
Voilà. Si je vous demande en deux mots de me résumer les deux, la théorie est vraie, tout ça, non?
Je pourrais me lancer, mais ça prendrait 10 minutes. Et donc, c'est...
Ah, c'est marrant, c'est exactement la réponse que j'aurais faite, moi, si on m'avait posé la question. Oui, ça me prendrait trop de temps. Bon, Parallèle, ne voulez pas répondre. C'est compliqué. En même temps, c'est assez bien résumé dans la série. Hein, bon.
Ah ouais, d'ailleurs, ouais. Le point fait un bien, bien fou, ce point-là.
Disons que pour résumer, si on lance une pièce en l'air... La probabilité que ça tombe sur pile ou face est de 50%. Donc ça. Et selon Everett, en fait, avant que la pièce tombe, c'est comme si l'univers se partageait en deux. Il y a un univers où la pièce tombe sur pile et l'autre univers tombe sur face. Donc en fait, les deux univers existent. Donc ça veut dire aussi que quand Charline, quand Antoine, vous prenez une décision importante dans votre vie, à un moment donné, il y aura un autre Antoine, une autre Charline qui vont suivre cette voie-là.
Et si elle tombe sur la tranche ?
Alors, normalement, ça n'existe pas.
Hein. Comment ça n'existe pas ? Tout existe.
Parallèle saison 2, alors très bien.
Voilà. Ah bah voilà.
Le mec, bon. Il ne prend aucune décision. Il s'en... Et voilà,
bien, Antoine prend une décision, celle de passer la bande-annonce. Ça donne ça.
On se retrouve au QG, ce soir ?
22h, ce soir.
On aurait dû payer les factures d'électricité.
Roman ! Bilal, Victor !
Pendant ces 5 secondes, Roman, Bilal et Victor ont disparu. Ce type est apparu à leur place, c'est ça ?
C'est comme s'il s'était évaporé. Maman, c'est Bilal.
C'est une taille différente, mais c'est la même empreinte.
Oh ! Si je vois, je l'entends, ça veut dire que Roman et Victor aussi.
Parallèle, une série diffusée sur Disney, c'est ce qu'on appelle un projet ambitieux. Parce que s'attaquer à un genre déjà très codifié, hein, le voyage dans le temps, en jouant avec d'autres genres, le tout pour Disney, à quoi ressemblait le cahier des charges, Cook ?
Alors au départ, il n'y avait pas de cahier des charges, c'était juste un plaisir pur. J'avais en fait envie de rendre hommage à tous les films que j'ai vus dans les années 80. Et à rendre hommage à Spielberg, Lucas, Zemeckis et j'en passe. Donc avec des films comme Stand By Me ou des Goonies ou Big. Et donc j'avais envie de quelque chose d'un peu feel good. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que je pense qu'on vit dans un monde un peu étrange ou absurde. Mm-hmm. Donc j'avais besoin de quelque chose qui met un peu de baume au cœur. Et donc je ne me suis pas posé la question...
Un doudou.
C'est ça. Et je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était vendable, si c'était raisonnable. Donc j'ai écrit et voilà, le résultat est là aujourd'hui. Donc on est vraiment ravis.
Excellente nouvelle, pas de cahier des charges.
Alors la science-fiction, Antoine le disait, c'est un univers ultra référencé. Vous venez de faire part des vôtres, on les partage. Je pense que c'est une histoire de génération. Mais là, on a eu vite fait de comparer, on va évacuer ça tout de suite, parallèle à Stranger Things, à Dark, à The Leftovers. Pas complètement sûr. Est-ce que c'est précisément parce qu'on manque de références françaises en la matière ?
Alors le genre fantastique, le genre fantastique français est un genre qui a été sinistré pendant longtemps puisque les Américains ont complètement conquis ces territoires avec talent et pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fait, les scénaristes français n'osaient plus s'aventurer dehors. Et de peur d'être jugés aussi par les siens. C'est-à-dire que les Français sont aussi très critiques vis-à-vis de la fiction française. Et donc, c'était un risque énorme. Et je pense que si j'avais vraiment réfléchi, ce qui est pas mal, je n'y serais pas allé. J'avais envie d'aller un peu à contre-courant et puis de dire, OK, on va mettre le pied dans la porte pour que le genre fantastique français puisse exister à nouveau.
Mais alors justement, quelles sont les spécificités du genre fantastique français ? Je parle à un expert.
Je crois qu'il fallait rester avant tout sur l'humain. Alors, et rester sur des personnages et de se dire, voilà, c'est une bande de potes. Et petit à petit, il va leur arriver des choses. Si on avait mis le paquet tout de suite dans le pilote avec des effets spectaculaires, des effets spéciaux, je pense qu'on aurait perdu le public. Ils se seraient dit, bon, ils essayent de singer les Américains et c'est pas du tout ça. Donc, moi, je suis tout de suite parti j'ai pris le parti de rester sur l'humain, sur les personnages et d'adapter les personnages à l'histoire, à trouver leur place. Donc c'était ça le défi.
Donc du coup, qu'on l'a compris, les raisons pour lesquelles vous aviez envie de faire ça, c'était pour rendre hommage à tous ces films qui ont bercé votre enfance des années 80. Et vous, Nedra, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous prêter à cet exercice-là ?
Alors moi, c'est un genre... j'ai pas beaucoup fait de choses dans ce genre-là, peut-être un peu Zone Blanche qui était une série un peu qui approchait un peu le mystique, mais en fait, donc déjà ça j'aimais, j'avais envie d'aller dans cet univers-là, et puis moi j'ai j'adore ce personnage, j'adore Sophia, j'adore ce qu'elle représente. C'est une femme célibataire qui élève seule son fils, où ça va bien, elle est solaire. Donc ça, déjà, je trouve que c'est chouette de montrer ces femmes-là. Et en plus, elle s'appelle Sophia Belkebir, et elle est astrophysicienne encore plus. Et ensuite, je trouve que le fait de passer tout ce qui se passe dans ces dimensions et ce à quoi sont confrontés les personnages, je trouve que ça amène une certaine réflexion, en fait. C'est presque philosophique, quoi. Mmh. Quand elle voit son fils débarquer, qui a un autre âge, voilà, qu'elle a pas vu. Et en fait, eh ben, son fils, en fait, elle l'accepte, elle l'aime tel qu'il est. Et c'est ça aussi en tant que parent. Ouais. Le chemin que nous, on a à faire, on n'a pas prévu. Voilà, on l'a. Et puis, en fait, c'est des personnes qu'on a en face et qu'on doit accompagner et accepter. Mmh. Et je trouve que ça amène plein de réflexions. Pareil, tout ce que les ados vont traverser et le rapport parent-enfant, je trouve que ça, c'est intéressant.
Mais parce que c'est autant une série fantastique qu'une série sur le passage à l'âge adulte.
Exactement.
Comme vous mélangez les deux, c'est quoi le plus compliqué à gérer sur un plateau, le surnaturel ou l'adolescent?
Ah, il n'y a pas eu de complications,
non,
en fait.
Non, c'était vraiment à l'image aussi du scénario. Il y avait quelque chose, il y avait un feel good, qui est comme ça, omniprésent. C'est très solaire, cette série, mais je trouve qu'elle est très solaire, quoi.
Absolument. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu le fantasme de beaucoup de parents de zapper la case ado? De les retrouver directement à l'âge adulte? Non, Cook.
Alors moi, j'ai des enfants qui j'en écoute. Ai un qui est adolescent, qui a 14 ans, et l'autre qui est jeune adulte, 18 ans.
C'est le moment de lui faire passer un message.
Mais en fait, l'idée m'est venue quand il y a longtemps, quand ils étaient beaucoup plus petits, j'étais au-dessus du CERN et au-dessus de l'accélérateur de particules.
Pour les faire disparaître.
Et ils étaient là à la sortie de l'école. Il y a des choses qui m'ont traversé l'esprit, pas de les faire disparaître, mais s'il leur est arrivé quelque chose, et si, voilà. Mm-hmm. Et donc c'est ça qui s'est passé. Mais c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge magique et ingrat en même temps. Mm-hmm. Je parle en tant que parent, pas en tant qu'adolescent, ils le vivent différemment, mais il y a quelque chose qui est vraiment du jour au lendemain. On perd ses enfants et on les retrouve, ils ont changé et il faut les aimer exactement tels qu'ils sont.
Nedra.
Oui. Moi, j'y suis pas encore, là, mes filles. Non, pas encore, mais ça, c'est imminent.
Ça va venir. Soyez patiente. Bien, oui. Je vois qu'il est 16h31. C'est le moment du pop break dans Pop Pop Pop. C'est l'heure des pop news.
Poésie, spoken words, jolie voix, belle mélodie, c'est la recette du duo britannique Kay Tempest et Liane Lahavas et ça s'appelle No Prizes. We stand at the lights before crossing the road. He says as long as there's life, there's still so far to go. I'm just gonna keep climbing. No Prizes à retrouver sur l'album de Kay Tempest, artiste aussi douée dans la manière d'écrire les choses que de les délivrer. L'album s'appelle The Line is a Curve et ça sortira le 8 avril.
C'est l'histoire de trois jeunes étudiants fraîchement diplômés, trois jeunes étudiants qui décident de s'éclater dans un lieu des plus insolites.
C'est quoi le plan ?
Le plan, c'est que vous me suiviez sous Paris.
C'est quoi cet endroit ?
Et bienvenue dans les catacombes.
Les catacombes.
Urbex, macabre.
On va faire attention, il va rien t'arriver.
Les entrailles de Paris.
C'est normal, ça?
Vont vous prendre aux tripes.
Mais c'est quoi ce délire?
Le ventre de la capitale meurt de faim.
Le film s'appelle Deep Fear. Et c'est réalisé par Grégory Béguin, comme le sucre, et ça arrive en exclusivité sur OCS le 20 avril.
Longue vie et prospérité, qu'il disait, parce que lui, Spock, savait que c'était parti pour durer. Trekkie de toute nationalité, réjouissez-vous, l'Enterprise reprend du service avec à son bord Spock et le capitaine Spike, puisque la série Star Trek Strange New World se déroule 10 ans avant l'intrigue de la série originale.
We are not alone in the universe. Our first visit from the stars is always the province of children's stories and science fiction. Until one day, it isn't.
Star Trek Strange New World, ça démarre aux États-Unis le 5 mai prochain sur Paramount+.
France Inter. Pop, pop, pop.
de Cohn.
Yes, it's May.
J'imagine que c'est Spock.
Bah évidemment, regardez mon oreille.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, mais oui, c'est vrai, ouais, oui, j'ai une oreille gauche pointue. Merci, Charline.
Je vous en prie.
Et bravo. Bien, retour à nos moutons, si je puis dire, puisque nous parlons aujourd'hui de Parallèle, cette série diffusée sur Disney, en compagnie de Nedra Ayadi et de Cook Dangtran, le créateur et une des créatures. Je vous passe le relais, Charline.
Tout à l'heure, c'était là.
Ah, oh, bah oui. N'êtes pas seul.
Reparlons maintenant des jeunes gens qui composent votre casting, ou en tout cas des personnages. Bilal vit seul avec sa mère, vous, Nedra, une mère solaire remarquable, comme vous le disiez. Roman avec une mère fragile, une petite sœur et un beau-père problématique. Quant aux deux frangins, Sam et Victor, ils sont élevés par des parents sans doute aimants, mais très occupés et faisant de vraies grosses différences entre leurs deux enfants. Sam, l'enfant parfait, Victor, considéré comme plus compliqué. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une vraie faille chez les protagonistes pour que le surnaturel puisse surgir? C'est souvent le cas dans les films fantastiques, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder chez Spielberg, que vous citiez tout à l'heure.
Je crois qu'il faut des vraies failles dans les personnages, dans toute forme de fiction. Mmh. Parce que des personnages parfaits qui vont bien, ça n'intéresse pas grand monde. Donc oui. Et puis le fantastique, faut, effectivement, ça exacerbe les émotions parce qu'on peut faire des accélérations, on peut prendre des partis pris qui sont hors réalité. Donc c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction et le fantastique.
La série se permet aussi quelques incursions dans la comédie avec le personnage du flic incarné par Guillaume Labbé, un policier qui est à la fois très compétent et un peu maladroit, avec qui vous formez un drôle de duo, Nedra. Il fallait ce contrepoint-là aussi.
Je crois que... Alors, comme je suis passé par différentes cases de genre dans ma petite carrière de scénariste, je crois qu'aujourd'hui, je serais incapable de ne pas mettre des petites touches d'humour de temps en temps pour donner des respirations, tout simplement. Je crois que ça fait du bien de rire, de sourire de temps en temps lorsque le sujet est grave.
On connaît les contraintes des tournages de séries hein, en fonction des décors, par exemple. Vous n'en avez pas perdu la boule, tous les deux, à jouer comme ça, avec des sauts dans le temps. Tourner, par exemple, le même jour avec son fils qui a grandi d'un seul coup de 14 ans, puis un policier qui fait du gringue à la mer qui cherche son fils partout. Enfin,
non. C'est ça, et même les
scènes... Essayez d'imaginer ça en regardant cette scène.
Et le plus dur, c'était... des fois, on a les mêmes scènes, quasiment, mais elles ne sont pas dans le même monde. Donc... les personnages, selon dans quel monde ils en sont pas tout à fait au même point. Et donc en fait, ça c'est ça c'était, fallait toujours refaire une vraie grosse mise au point avant de tourner. Mais c'est drôle, enfin c'est génial quoi, parce que là du coup on est vraiment dans la situation des
déboussolés.
On est complètement déboussolés quoi.
Et Cook, vous avez gardé toute votre tête?
Alors oui, moi quand j'ai écrit, ça me paraissait hyper clair.
Le mec est fou.
Ceux qui l'ont lu ont dit, bon bah Cook, il va peut-être falloir éclaircir tout ça, mais effectivement, oui.
La série est courte, 6 épisodes de moins de 40 minutes. Comment est-ce que vous en avez géré le rythme? Alors à la fois à l'écriture, et comment est-ce que vous l'avez ressenti, Nedra, sur le tournage? Qu'est-ce que ça impliquait?
L'objectif très clair... Pour moi, les séries ont beaucoup changé, l'attention des spectateurs a changé aussi. Donc il faut les attraper dès le début, il faut que l'histoire les intrigue, que les personnages les émeuvent un petit peu, ou qu'ils se disent « tiens, j'y crois, cette bande de potes en fait ». Et à partir de là, il ne faut pas les lâcher. Donc il ne faut pas les lâcher, mais il ne faut pas les perdre non plus. C'est-à-dire que le scénariste doit être en avant, en amont, et donc, mais que le spectateur le voit toujours du coin de l'œil pour dire « ok, il est là, il continue de me raconter l'histoire ». Si on ne le voit plus, on s'inquiète. Et si on dépasse le scénariste, eh ben, on a raté j'ai raté mon boulot puisque tout est prévisible. Donc il faut garder la bonne distance. C'est ça qui est le plus difficile.
Et pour vous, le rythme de tournage, Nedra, ça impliquait quelque chose de particulier?
Non, mais
ce format-là,
mon rythme est tellement
dans la vie,
sorti comme un poisson dans l'eau. je me sens bien, moi.
Et dans la science-fiction, le lieu a évidemment son importance. Qu'est-ce que ce petit village de montagne vous permettait d'explorer dans la narration?
Je crois que la montagne est presque un personnage en lui-même.
Oui, bien sûr.
Donc la montagne...
Ça vous gagne.
Déjà oui, ça c'est vrai.
C'est une frontière en soi.
On n'avait pas dit les petites blagues, Nedra, c'est dingue ça.
Pourquoi ça me fait ça? Moi, la montagne, ça vous gagne. Pourquoi?
Non, mais c'est vrai que la montagne, c'est un personnage là, dans là où ils vivent. Et puis, il y a quelque chose, c'est tellement grandiose, c'est mystérieux, quoi. Ouais. On se sent tout petit, quoi. Donc ça participe à l'ambiance.
À la fois grandiose et claustro.
Oui.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais.
Ça marche très 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 bien. Moi, je voudrais revenir quand même un instant sur ces fameuses années 80 là qu'on évoquait il y a quelques instants. Vous parliez de Stand By Me. On a l'impression que la pop culture se nourrit beaucoup de références à son propre passé. Est-ce que vous avez l'impression que une certaine forme de nostalgie en fait intrinsèquement partie?
Alors oui, alors moi j'ai adoré personnellement les années 80. C'était une décennie un peu idéaliste, enfin de mon point de vue d'adolescent. Hein. Donc, et je sais aussi que mes goûts musicaux, et je suis désolé de dire ça, mais je sais que mes morceaux cultes fétiches, ils datent tous entre mes 15 et 25 ans. Après, j'écoute d'autres choses, mais ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même poids. Donc oui, j'ai été très marqué par ces fictions avec des jeunes, des adolescents, avec des univers incroyables. Donc oui, bien sûr.
Et vous venez
de rien. Ben, en fait, au-delà de la nostalgie, de toute façon, faut bien. Enfin, on est fait de là où on vient, et en fait, donc forcément, enfin, j'ai l'impression que l'identité présente, elle vient forcément du passé. Donc, c'est une référence. Enfin, je vois pas comment on peut y échapper, en fait.
C'est comme un écho d'un monde, en fait, très très proche, mais déjà disparu.
Et j'adorerais revenir en arrière, mais me voir à 15 ans, enfin je sais pas ce que vous en pensez vous, mais revenir dans votre lycée, vous voir de loin, vous asseoir sur un banc et vous regarder évoluer dans le lycée, mais j'adorerais ça, trouverais ça tellement excitant.
Ah, moi ça m'angoisserait au dernier stade, surtout pas, on n'y retourne pas.
Si jamais ça se produit, vous me prévenez que je viendrai avec une caméra.
C'est clair.
Il y a un vieux mec qui regarde, oui, c'est sûr.
Ah non, c'est parce que vous croyez.
Je parle de moi, bien sûr, je serai là en train de regarder les jeunes, ça serait très 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 chouette.
Vous les draps, ça vous tenterait ça?
Bah, je sais pas, ouais, peut-être. Je sais pas, en même temps, je suis bien dans mon présent.
Enfin... Ça trop vite, parce que c'est évidemment le prétexte idéal à une saison 2. Hein. Ah, bah oui. Évidemment.
Eh bien, on le souhaite.
On le souhaite.
On y réfléchit.
Alors, toutes ces références dont vous parliez, vous en jouez tout au long de la série. Il y a au bout d'un moment un échange entre votre personnage, Nedra, et les gamins. Vous avez vu Retour vers le futur? Je vous le spoil, c'est dangereux. Donc, il y a des petites citations comme ça qui sont sous forme de clin d'œil, qui ne sont pas gadgets et sur lesquelles vous ne vous appuyez pas non plus.
Non, bien sûr, on fait aussi référence à Thanos, il y a des petites références comme ça, parce qu'effectivement, je ne voulais pas révolutionner le genre, c'était pas du tout l'idée, c'était rendre hommage, donc c'était construire une petite boîte à musique, lorsqu'on l'ouvre, il y a une petite truc, ça tourne, et c'est joli, et c'est ça que je voulais faire, vraiment.
Oui, puis ça raccroche à quelque chose de l'ordre de la réalité, puisque effectivement, la mère de Bilal a pu effectivement voir Retour vers le futur, elle vit dans un univers où ça existe, où c'est très étonnant, parce que c'est une citation fantastique, et en même temps, ça ramène quelque chose de réel.
Bien, Nedra Cook, cette fameuse série parallèle dont nous parlons depuis quelques instants déjà est donc diffusée sur Disney+, et vous l'aurez tous compris, nous la recommandons chaudement.
En famille, regardez en famille.
Absolument, c'est fait pour avoir, parce que vous avez regardé ça avec votre
avec ma fille.
Petite fille, vous.
Tout à fait.
Oui, et alors ?
Petite fille. Alors, 12 ans. Mais c'est super. Non, mais c'est un vrai programme familial, c'est vraiment hyper agréable, il n'y a plus tant de rendez-vous que ça en fait, et là pour le coup... C'est idéal.
Voilà, merci docteur Roux. Vous restez avec nous dans quelques instants, nous allons parler de...
Tu me fous la honte là et ensuite tu me dis que t'es désolé, c'est ça ?
Someone digging ? We are all fucked.
De Yellow Jackets, de Paloma Faith, des meilleurs, mais aussi d'Hommes qui ne pleurent pas et de Fran Lebowitz. Mais tout de suite, un autre voyage dans le temps, c'est Rock'n'Roll, Led Zeppelin.
Spill it all down,
Eh oui, la Zeppelin rock'n'roll. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ça, c'est le jingle de Netflix, si je ne m'abuse. Cook, c'est le son que vous nous proposez comme symbole de cette pop culture.
Alors, j'avais aussi choisi celui de Disney+, je tiens à le préciser.
Bon, les deux, alors. C'est Disney+.
Oui, parce que c'est un peu comme le jingle SNCF, c'est qu'on sait qu'on va voyager, en fait. Donc j'entends ça, je sais que je suis dans mon canapé, que pendant une heure, une demi-heure, trois heures, on va m'emmener ailleurs et on va me divertir.
Une invitation au voyage. Nedra, vous suggérez le tcha-tcha de Canal. C'est la nostalgie qu'on
a. Ouais, parce qu'en fait, moi, mon père, c'est sa grande fierté, c'était un des premiers abonnés Canal. Et lui, c'était pour le foot. Et moi, grâce à ça, j'ai pu bénéficier d'une énorme culture cinéma. Quoi. On n'allait pas forcément... j'avais pas les moyens d'aller au cinéma tout le temps, mais en fait, je regardais tout le temps les films. Il y avait le film qui était reprojeté le dimanche matin, enfin tout ça. Et donc voilà, c'est une petite Madeleine de Proust.
Eh bien voilà pour la Madeleine et l'invitation au voyage également. Ben moi, mon jingle à moi, c'est celui-ci. Celui de la pop-list, puisque nous vous avons demandé à tous les deux de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous nous conseillez en ce moment, et nous en avons fait un petit mash-up. Alors Nedra, le livre que vous avez choisi, c'est Un homme, ça ne pleure pas, de Feyza Ghen. Charline, vous nous confirmez ça?
C'est pas la théorie que j'aime, enfin bon. Mourad est né à Nice de parents algériens, et dans la vie, il rêve d'un grand destin. Son pire cauchemar, ce serait de devenir un vieux garçon obèse aux cheveux poivre et sel, nourri par sa mère à base d'huile de friture. Pour éviter d'en arriver là, il lui faudra se défaire d'un héritage familial pesant.
Bien. Pourquoi avoir choisi ce livre, Nedra ?
Eh bien, parce que je trouve qu'elle parle très bien de cette génération-là, d'enfants d'immigrés nés en France, d'une famille modeste. Chacun va évoluer, va faire avec ce qu'il peut, avec l'héritage qu'il a, l'héritage culturel, familial et social, parce que ça, ça en fait partie. Et comment chacun s'émancipe ou pas de ça. Et je trouve qu'elle traduit ça très bien. Il y a trois enfants dans la fratrie. Il y en a une qui va complètement reproduire. Lui, le héros, il essaye déjà de s'émanciper de sa mère. C'est énorme. Et il va devenir prof. Et l'aînée, elle est vraiment en rupture. Et c'est une femme qui va se politiser, qui rêverait de s'appeler Christine, en fait.
Voilà. Okay. Un homme, ça ne pleure pas, de Feyza Ghen. Moi, je vous fais le petit signe, là. Vous voulez bien nous en lire un paragraphe ?
Alors, un petit paragraphe. Donc, j'en avais... j'en avais deux, mais je vais vous en...
Celui-là, par exemple.
Alors, tenez, justement. La réussite scolaire était une chose très importante à ses yeux. Il parle de son père. À l'arrivée du bulletin, comme à son habitude, « Assieds-toi près de moi et dis-moi ce qui a marqué là-dessus avant que je signe. » Je lui récitais une à une les moyennes sur 20, les appréciations de l'institutrice. Il lui faisait remarquer fièrement qu'il n'y avait aucun point rouge dans la colonne du comportement. « C'est bien, mon fils, je suis content. » Lentement, il a posé au stylo Bic une petite signature d'illettré, tremblotante, fébrile, qui ne donnait pas le moindre indice sur son caractère bien trempé. Puis, il replaçait le capuchon sur le stylo et l'accrochait avec les autres à la poche de sa chemise à manches courtes, comme un médecin généraliste, bien qu'il ne sache ni lire ni écrire. Je vais au bout.
Très bien. Ça donne envie. Ça s'appelle Un homme, ça ne pleure pas, de Feyza Ghen. Et c'était votre recommandation à vous. Alors vous, Cook, votre livre du moment, c'est Pensez avant de parler, lisez avant de penser, de la géniale Fran Lebowitz, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici même lors de son passage à Paris. Charline, do you remember?
Oh yes, I do. Elle était effectivement venue à l'occasion de la sortie française pour la première fois du livre. Et je vous ai choisi l'une des perles de sagesse qu'elle nous a dispensée.
Complaining is a natural consequence of intelligence.
Oui, bah, se plaindre, râler, c'est une conséquence naturelle d'une certaine intelligence.
Voilà, tout est dit.
Elle fait partie de vos références, Fran Lebowitz.
J'adore cette femme. Elle a un cerveau qui est affûté comme un diamant. J'adorerais que ce soit ma meilleure amie, parce que je pense qu'elle se foutrait de ma gueule toute la journée et que ça serait génial, en fait.
On va peut-être vous arranger ça. On va la rappeler.
Tu as besoin d'un ami.
Non mais lisez-le, de toute façon ce livre, il est absolument irrésistible. Pensez avant de parler, lisez avant de penser. C'est le titre. Alors votre série du moment, Cook, c'est Yellow Jackets, qu'on peut voir en France sur Canal. Charline, c'est quoi le pitch, comme disaient les producteurs dans les années 2000?
Eh bien, encore une affaire de double temporalité. Dans les années 90, les membres d'une équipe de foot féminine ou de soccer, comme elles disent, se retrouvent à être les seules survivantes du crash d'un avion. Aujourd'hui, elles sont devenues des femmes, vie plus ou moins épanouie, avec clairement un secret, mais que s'est-il passé ?
I'll never forget the day I heard the plane had gone missing.
Those girls were special. They were champions.
What really happened out there?
It gives me chills. Not that I believe any of those nasty stories, but...
If someone's digging, we are all fucked.
What does the person who sent these postcards want?
Obviously a threat.
Alors, Cook, qu'est-ce que le professionnel de la série que vous êtes apprécie dans cette histoire ?
Alors, je n'ai pas encore terminé la série, mais ce que j'adore, c'est le mélange des genres. Donc, c'est survival, c'est murder mystery, c'est coming of age, comme on dit, donc l'adolescence, devenir qui on est. Donc, tout ça dans la même série. Et moi, ça me parle parce que j'ai l'impression que je vais dans cette direction-là, dans le mélange des genres, justement.
Très bien.
Avec un casting impeccable.
Et une musique.
Sur les deux générations.
Impeccable.
Oui. Merci, Dr. Roux. Nedra, votre film du moment, c'est Les Meilleurs de Marion Dessaigne-Ravel. C'est sorti le 9 mars sur les écrans. De quoi ça parle, Charles ?
Dans un quartier populaire, Nejma tombe amoureuse de Zina. Et pourtant, on pouvait bien lire sur un des tags du quartier, le premier qui tombe amoureux a perdu.
Tu me fous la honte, là, et ensuite tu me dis que t'es désolée, c'est ça ?
Ce sont les baltringues, les douceurs.
Je crois pas.
Je comprends pas, moi, votre génération. Vous jurez courant toutes les 5 minutes. Quand on arrive en France, on cherchait la liberté. Je suis sûre qu'un jour, tu me ramèneras un beau jeune homme.
Mais j'y crois rien, je verrai cette pute-là.
Non, regarde-moi, t'existes plus pour nous, c'est bon ?
Alors, Nedra, donnez-nous envie d'aller voir ce film.
Écoutez, c'est un premier film, donc déjà, c'est important de les mettre à l'honneur. C'est dur d'arriver en plus aujourd'hui avec un premier film, je trouve. Mais en plus, je trouve que ce qui est fou, c'est que c'est presque encore un acte courageux de traiter ce genre d'histoire aujourd'hui en 2022, de jeunes femmes d'origine maghrébine qui sont amoureuses. Et donc rien que pour ça, je me dis, faut plus on en parle et plus on comprend, en fait. Donc, et je trouve que la prestation notamment de Lina El Arabi, elle est formidable. Je trouve que c'est un film très intelligent, très brillant.
Les Meilleurs de Marion Dessaigne-Ravel, voilà pour votre recommandation. Et pour terminer cette pop-list croisée de Cook, je me tourne vers vous. Et le morceau que vous avez choisi, c'est Only Love Can Hurt Like This de la Britannique Paloma Faith. Cook, même si c'est contemporain, ce n'est pas vraiment de l'électro, on va dire. Alors pourquoi ce choix ? C'est une artiste que vous suivez ?
Alors j'ai été très littéral, c'est parce que alors quand on m'a demandé ce morceau, en fait je suis en train de traverser une rupture un peu douloureuse, donc Only Love Can Hurt Like This, je suis très littéral.
Très bien, mais écoutez, nous compatissons et nous l'écoutons avec vous.
You don't mean nothing. And what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much. But I feel like I die till I feel your touch. Begging you to stay, and when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Only love can hurt like this.
C'est fatal. Cook voulait écouter absolument pas l'homme à faith. Only love can hurt like this. Et il est en larmes. Littéralement. Il n'y avait plus qu'à le ramasser à la petite cuillère. Bon, merci quand même d'être venu. Merci beaucoup, Nedra. Merci, Cook.
Merci à vous.
D'être venu
merci
parler avec nous de Parallèle, cette série qui est diffusée sur Disney depuis déjà une semaine. Elle est absolument épatante. Et comme le dit si bien le docteur Roux, elle est pour toute la famille.
Voilà. C'est l'ordonnance.
Voilà. Merci, Charline. À demain. Et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Ronan May qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Vincent Brujas et un autre Ronan Toulouate viendront nous parler de leur BD La République des Crânes. Et rien à voir avec la présidentielle, non, ce sont des pirates, bah, c'est vrai. Et avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.